de quoi faire du souci. Quant au devenir de l'homme sur la planète, à commencer par ce pays dans lequel je...
Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, il faut vous prendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Hein.
Il n'y a pas de différence entre l'islamisme et le terrorisme, si ce n'est une question de degré. Je partage votre avis.
Salut à toutes et salut à tous, c'est enfin le deuxième épisode de À 100 ans près, une émission faite de briques et de brocs qui s'attaque à un sujet aussi vaste que complexe. On tente ensemble de comprendre, analyser et désamorcer le retour des idées fascistes dans nos vertes provinces, un gros programme qui démarre un siècle après l'avènement de cette doctrine craignos en Italie. On a tendance à croire que le débarquement allié a balayé des cœurs et des esprits la doctrine préférée de Mussolini, Hitler, Franco et Pétain. On pense que l'avènement d'une France libre et le triomphe de la démocratie de marché nous ont fait avancer vers les vertes contrées de la fraternité et de la consommation pour tous. Mais le fil brun est tenace. On ne dissout pas une idéologie, fût-elle liberticide, xénophobe, aberrante. Les piliers sur lesquels s'appuient les idées d'extrême droite sont coulés dans un excellent béton. On n'en a pas fini avec le nationalisme. Tant que les nations existent et qu'elles sont reconnues comme étant la seule souveraineté légitime, le racisme, quant à lui, connaîtra toujours de beaux jours, tant qu'on ne reconnaîtra pas la lutte des classes comme étant la principale dialectique historiquement valable. Je m'explique, les peuples sont depuis de nombreux siècles à la fois les acteurs et les victimes de cette opposition entre ceux qui possèdent et ceux qui triment, indépendamment de leur couleur de peau ou de leur religion. Dans un monde capitaliste, on se rend bien compte qu'il y a un fossé entre les propriétaires des moyens de production et le petit peuple, toutes couleurs confondues, qui loue sa force de travail dans des usines, dans des agences d'intérim, dans des entreprises de services, quand il ne subit pas de plein fouet le chômage. Alors, on l'a vu dans la rétrospective historique qui était la première émission, les idées fascistes ont traversé le XXe siècle et elles refont bruyamment surface aujourd'hui. Malgré les nombreux cours d'histoire qui racontent les méfaits des fascismes historiques, malgré l'idéologie de la classe moyenne consumériste qui fait de tout citoyen un producteur-consommateur sans distinction de race ou de religion, et malgré l'omniprésence d'Internet dans nos vies, Internet qui nous permet pourtant de communiquer avec nos frères humains et nos sœurs humaines aux quatre coins de la planète, et Internet qui prétend abolir les frontières. Il faut qu'on se l'avoue, le XXIe siècle ne nous a pas enlevé la peur de l'autre, qu'il soit juif, musulman ou simplement différent. On voit revenir à toute allure l'adoration du drapeau et de la nation, l'exaltation de la virilité et de la violence, et l'histoire des 20 dernières années annonce en filigrane le retour fulgurant des idées fascistes qu'on connaît aujourd'hui dans notre société. On en parle en deuxième partie de l'émission, de ses origines, à la recherche de ses origines. Et pour ouvrir cette émission, je vous propose de parler de quelque chose qu'on vit aujourd'hui, puisque aujourd'hui, les idées d'extrême droite ont la part belle et elles se répandent comme des traînées de poudre, notamment via les réseaux sociaux. Pour commencer, je vous propose une petite rétrospective des dernières semaines au sujet de la bagarre violente qui a éclaté lors d'un bal à Crépole, près de Romans-sur-Isère. Vous en avez tous entendu parler. Une bagarre très violente éclate devant la salle des fêtes et le jeune Thomas, 16 ans, meurt d'un coup de couteau. Donc ce fait divers, aussi tragique qu'il soit, il nous ouvre plusieurs pistes de réflexion intéressantes, à cause de ses conséquences successives. Donc on revient au moment de l'action, ça c'est la nuit du 18 au 19 novembre. Le traitement médiatique de l'événement est fascinant. Au moment où on réalise cette émission, donc le 5 décembre, soit un peu plus de deux semaines plus tard, le Dauphiné Libéré a déjà consacré 100 articles au sujet. Ça aurait pu être une simple brève, mais ça a été très rapidement monté en épingle et instrumentalisé par les politiciens, notamment par l'extrême droite. Le 20 novembre, donc le lundi qui suit le drame, tandis que les politiques locaux en sont encore à exprimer leur douleur et leurs condoléances à la famille, notre grand Éric Zemmour, le bouffon télévisuel polémiste radicalisé, le troubadour du grand remplacement, n'a pas manqué une bonne occasion d'allumer une mèche. Je cite son propos, « Il n'aura pas de minute de silence, ses proches resteront dignes et ne provoqueront pas d'émeute. » Alors c'est une référence explicite au meurtre du jeune Naël, un jeune homme parisien qui a été abattu à bout portant par un policier au mois de juin. La comparaison est osée, voire fallacieuse, mais Zemmour ose tout.
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Et puis tout s'enchaîne. Le 21 novembre, le Dauphiné Libéré relève que toute l'extrême droite s'est enflammée sur les réseaux sociaux en commentant le meurtre. Alors ça va de Marine Le Pen qui dénonce les véritables razzias dont sont victimes les pauvres Français. Zemmour, lui, continue de pérorer sur « nos martyrs, victimes innocentes de la guerre de civilisation ». Et Marion Maréchal, elle, publie une vidéo de 4 minutes au cours de laquelle elle s'attaque au racisme anti-blanc qui est, selon elle, à la racine de cet événement.
Donc on est là pas seulement face à un fait divers ou à un futile règlement de compte qui aurait mal tourné, ou même parfois, comme j'ai entendu dire, une rixe, comme si on était dans une bagarre de sortie de boîte de nuit sans conséquence. Non, on est véritablement face à la manifestation du racisme anti-blanc décomplexé dans notre pays, qui va jusqu'à la barbarie la plus totale, qui aujourd'hui n'épargne plus personne, n'épargne plus nos villages, n'épargne plus nos campagnes. Et c'est logique, puisque maintenant, depuis des décennies, rien ne s'est mis en travers de ce racisme anti-blanc, ni l'État, ni la justice, ni les responsables politiques.
Le mercredi 22, c'est le jour de la marche blanche en hommage à Thomas. Ça attire 6000 personnes qui défilent dans le calme. Mais ce jour-là, le groupe Action Française, donc c'est les cathos royalistes, tente de faire imprimer des affiches ultra simplistes qui incitent ouvertement à la haine. On peut lire sur le texte, en rouge et blanc, « Thomas, 16 ans, victime de l'immigration ». Alors l'imprimerie Bureau Vallée refuse de faire imprimer ses affiches et aussitôt sur les réseaux sociaux, ils se prennent menaces de mort, menaces d'incendie, bref. Le même jour, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, ex-Front National, qui exprime son point de vue sur le meurtre de Thomas.
Armés de couteaux, remplis de haine, ils ont semé la terreur. Frappés au hasard, gratuitement, avec la volonté de blesser, de tuer, autant la vie à Thomas. Les témoignages rapportant les propos tenus par ces barbares lors de l'attaque laissent planer peu de doutes quant à leur motivation. « On est venu pour planter des blancs », aurait-il déclaré. À leurs yeux, Thomas et ses amis avaient le malheur d'être de jeunes Français en France.
Alors s'il y a quelque chose d'assez grave qu'on peut reprocher à Jordan Bardella, c'est que ses propos sont toujours basés sur des rumeurs. En effet, on est 3 jours après les événements, la police a arrêté 9 personnes et les circonstances de la bagarre ne sont toujours pas tirées au clair. Les premières conclusions officielles ne filtreront qu'après la période de garde à vue des suspects qui durera 96 heures, soit 4 jours. Ce qui émerge par contre déjà, c'est que l'attaque raciste gratuite est une version simpliste des faits. En effet, la réalité semble plus complexe. On commence à entendre de témoins qu'il y a un incident qui aurait éclaté à l'intérieur de la salle des fêtes, que l'engrenage serait parti de moqueries qui dégénèrent, et non d'une volonté sauvage de massacrer des blancs, n'en déplaise à Marion Maréchal, Jordan Bardella et leurs potes. Tout au long de la semaine, les posts haineux se multiplient sur les réseaux sociaux. Et le samedi 25, une semaine après le bal, c'est une centaine de militants d'ultra-droite, comme on les appelle maintenant, des gros bras fachos, qui débarquent dans le quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère, pour tout cramer, au nom de la défense des Français contre les musulmans. Alors ils arrivent de Romans-sur-Isère ou de Valence, mais aussi de Lyon, de Besançon et même de Bretagne. Ils se sont mobilisés à toute allure, ils débarquent en même temps armés avec des barres de fer, des battes, des fumigènes et des mortiers d'artifice. Ils appartiennent au GUD et à d'autres groupuscules ultra-violents qu'on a vu naître ces dernières années, notamment la division Martel, dont Darmanin a annoncé la dissolution, même si on sait bien que ça changera pas grand-chose. Donc un week-end super tendu et la semaine suivante, les appels au calme et à la retenue se multiplient. On redoute en effet un embrasement et c'est sans doute à juste titre puisque les militants casseurs d'ultra-droite revendiquent, eux, la potentialité d'une guerre civile. je vous propose d'écouter une analyse qui a été diffusée par l'AFP à propos de ce genre d'attaque, et elle dresse un parallèle entre les événements de Romans-sur-Isère et ce qui s'est passé la même semaine à Dublin après qu'une attaque au couteau ait fait des morts.
Le 23 novembre, en Irlande, 500 émeutiers réputés proches de l'extrême droite ont attaqué un quartier de population immigrée à Dublin en représailles à une agression au couteau contre des enfants par un homme qui serait d'origine étrangère selon des rumeurs. Romain Fargier, spécialiste des influenceurs d'ultra-droite sur Internet, voit des similitudes d'action entre Romans et Dublin. D'abord dans l'instrumentalisation des faits divers. En France comme en Irlande, ces groupuscules s'appuient sur la forte émotion suscitée par ces drames.
Une médiatisation de faits divers très tragiques qui mettent en cause des personnes issues de l'immigration ou immigrées. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à faire une sélection massive de tous ces faits divers et de donner l'impression que en fait, cette violence et cette insécurité est systématiquement le fait de l'origine ethnique en fait, de l'agresseur. Ils essayent d'utiliser donc cette sélection de faits divers pour déshumaniser les personnes de cette origine ethnique. Ils utilisent des techniques de mobilisation sur les réseaux en ligne. Donc ce qu'on appelle l'astroturfing, ils ont fait monter des hashtags sur Twitter, enfin sur X maintenant. Ils ont fait monter aussi des vidéos sur TikTok, soulignant un peu l'origine ethnique. Et bien sûr, à ce fait divers, ils associent quelque chose de plus grand, on va dire, qui est en fait une guerre de civilisation entre des arrivants de l'étranger qui veulent tuer les Irlandais. Et c'est un peu ce qui a été sous-entendu aussi à Romans, avec aussi, bien évidemment, des propos qui ont été rapportés de la part de témoins disant que éventuellement l'un des agresseurs voulait tuer du blanc. Donc tout ça a été un peu le même procédé, c'est-à-dire une rumeur sur l'agresseur, une utilisation des réseaux sociaux avec une utilisation de l'algorithme et de la viralité, et puis enfin une concrétisation sur des mouvements, on va dire, hors ligne, c'est-à-dire vraiment sur le terrain.
Selon le chercheur, le but de ces groupuscules est l'action violente afin de provoquer un grand choc.
Ils veulent vraiment provoquer ce qu'ils appellent l'accélération de la chute, de l'effondrement du pays pour pouvoir en fait repartir sur de nouvelles choses, c'est-à-dire provoquer une guerre civile ou un choc auprès de l'opinion publique.
Alors, ce genre d'instrumentalisation des faits divers nous donne à réfléchir sur le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la montée en puissance des discours d'extrême droite. La vitesse de propagation des informations et leur déformation systématique entraînent en fait des compréhensions biaisées, voire qui ont parfois des conséquences dramatiques. Les réseaux sociaux amplifient « naturellement » entre guillemets les phénomènes. Et en plus de cela, les mouvements d'extrême droite les utilisent de façon tactique pour diffuser leurs idées nauséabondes, leurs lectures fallacieuses des faits et leurs discours de haine. Pour cette seconde partie de l'émission, je partage avec vous les analyses du chercheur en sciences politiques Ashraf Ben Brahim. Les propos que je diffuse ici sont extraits d'un entretien fleuve qui a été mené avec la plateforme VLAN. L'entretien complet est disponible sur YouTube. Si vous voulez en écouter plus, c'est sous le titre « Comment l'extrême droite tisse sa toile ». Alors, Ashraf Ben Brahim a enquêté, lui, sur les stratégies numériques des djihadistes et de l'extrême droite. Et ce qui est assez amusant, c'est que pour ces deux mouvements, que tout oppose a priori, il constate que la stratégie numérique est la même. Être omniprésent sur les réseaux, créer des contenus racoleurs et laisser les algorithmes faire le reste du boulot.
Mais parce que l'extrême droite, finalement, n'est pas organisée autour d'un parti politique, mais plutôt autour d'idées. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Baptiste Marché, qui est un influenceur d'extrême droite, voire quelqu'un comme Julien Rojdi. C'est des personnes qui ne vont pas militer pour un parti, bien que parfois ils appellent à voter pour un candidat, mais c'est des gens qui vont passer par autre chose que la politique pour agréger un public et du contenu. Ça va être des vidéos sur le virilisme, des vidéos sur la gastronomie, des vidéos sur l'expatriation, des vidéos économiques. Donc finalement, ils arrivent à capter un public assez large, et forcément, lorsque vous faites de la politique en parlant d'autre chose que de la politique, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attrayant qu'un meeting de une heure sur la politique européenne de la France. Voilà. Deuxième point, oui, bien sûr, l'extrême droite domine la toile et Il suffit de voir aujourd'hui le nombre d'influenceurs et de clics d'extrême droite versus ceux de gauche ou d'extrême gauche. Il n'y a pas photo. J'en ai dénombré à peu près 50 qui atteignent facilement le million de vues. Et ils sont cités dans le livre, alors que, bon, extrême gauche, il doit y avoir quelqu'un comme Usul qui ne dépasse pas les 300 000 ou 400 000 abonnés et qui est pourtant lancé par des médias comme Mediapart, etc. Donc oui, la comparaison, ici, elle ne tient pas. L'extrême droite est beaucoup plus présente et beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus mobilisée que la gauche. L'extrême droite, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas l'imposition dans le débat public ou sur les plateaux TV, à commencer par Twitter, sur le voile, sur tel scandale, la compromission de tels élus avec l'islam radical, parce que derrière, en fait, ils arrivent à se mobiliser. Et lorsque un influenceur, on va dire, sonne le tocsin avec des hashtags, etc., on l'a vu dans l'affaire Lola, voilà, eh bien, quel que soit finalement les, disons, le soutien et l'orientation de cet influenceur-là, eh bien, il sait qu'il doit donner de la force sur ce hashtag-là.
Alors, cette efficacité de l'extrême droite dans le domaine du numérique, elle est favorisée en fait par le fonctionnement algorithmique des réseaux sociaux. D'après Ashraf Ben Brahim, le premier vecteur de succès des idées fascistes aujourd'hui, c'est le réseau Twitter, qu'on a rebaptisé X.
Clairement, c'est Twitter qui, pour moi, est la clé de voûte de cette montée. Pourquoi ? Non pas parce que c'est là où se trouvent le plus de vues, le plus de gens, mais parce qu'en fait, sur Twitter, c'est un réseau, on va dire, professionnel. Et la quasi-totalité des journalistes et des décideurs s'y trouvent. Par conséquent, lorsque ils arrivent à déclencher finalement un raid numérique, on va y revenir plus tard, c'est-à-dire arriver à mettre en tendance un phénomène, un mot, forcément, qu'est-ce que se dit le journaliste ? Eh bien, il faut en parler, puisque ce mot-là est en top suite. Donc en fait, finalement, cette polémique prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, comme outil, évidemment, c'est YouTube. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour moi, YouTube est même plus puissant que la télévision, puisque avec une chaîne YouTube, vous pouvez toucher tout le monde, n'importe quand et n'importe où. Honnêtement, ils maîtrisent très bien les outils de création, les vlogs, les podcasts, etc. Et je dirais en trois, eh bien, le financement. La réalité, c'est celle-là. C'est qu'ils arrivent à agréger des centaines de milliers d'euros. D'ailleurs, la plupart en vivent, hein, que ce soit Daniel Conversano, que ce soit Alain Soral, que ce soit Dieudonné, et tant d'autres, avec Tipeee, avec Tipeee Stream, avec PayPal. Et puis derrière, la rentabilisation de cet auditoire, avec des ventes de livres, des formations d'ailleurs. je prends l'exemple de Daniel Conversano qui a même ouvert une agence de rencontres matrimoniales pour, on va dire, accentuer la blanchité de la civilisation européenne entre les femmes de l'Est et des Français qui sont en déshérence ethnique ici. Donc voilà, c'est tout un écosystème qui arrive à faire la jonction entre le réel, comme je l'ai dit, les rencontres, les forums, les salons, la vente de livres, les formations et le numérique. Et ils sont très solidaires. Pourquoi solidaires ? Eh bien, l'exemple, c'est le raid numérique. C'est ta deuxième question. Qu'est-ce qu'un raid numérique ? Eh bien, c'est simple. On va isoler, on va dire, un phénomène, comme l'affaire Lola. Directement, en fait, dans les boucles Telegram et WhatsApp, le mot d'ordre, ça va être de tweeter et de poster ce hashtag-là. L'algorithme, forcément, quand il voit qu'il y en a beaucoup, bah, il les fait remonter en top. Et puis, d'un coup, forcément, on croit qu'il y a énormément de gens qui sont d'accord avec ce phénomène ou ce fait-là, alors que c'est l'œuvre d'une centaine de militants soit de partisans, voilà, soit de bots même parfois. Et c'est aussi le cas pour, on va dire, des personnes physiques, c'est-à-dire c'est pas uniquement un hashtag, c'est aussi quelqu'un qu'on va sommer de répondre. C'est-à-dire quand, par exemple, Damien Rieu va marquer quelqu'un en disant « cette personne-là a loué une mosquée à je ne sais quelle, dans je ne sais quelle ville, tel élu a loué une mosquée, regardez ce que ça fait, etc. Bah » forcément, derrière, tout le monde comprend qu'il faut aller prendre à la gorge cette personne-là, le mentionner, le retweeter, le dénoncer, etc., etc. Et puis derrière, ça crée un phénomène, et puis on connaît la suite. C'est repris sur CNews, la personne est invitée à « Touche pas à mon poste », et bon coup. Ah, c'est très efficace, moi je dis bravo.
Donc en résumé, la compréhension du fonctionnement des algorithmes et de la logique du buzz par les propagandistes de l'extrême droite joue un rôle vraiment central dans la virulence des propos d'un côté et dans leur vitesse de propagation de l'autre.
Et forcément, comme tu l'as dit, eh bien, les algorithmes vont favoriser les sujets les plus binaires parce que ça génère du clic, et qui dit génère du clic génère de l'adhésion. Ce sont des datas qu'on va pouvoir revendre, hein. Je rappelle que l'or noir du 21e siècle, c'était pas le pétrole, c'est la data. On va pouvoir modéliser, on va pouvoir faire des expériences, etc. Donc évidemment, voilà, ce sont des boîtes qui ont vocation à faire de l'argent, hein, au cas où je le rappelle. Hein, voilà. Non, mais on l'oublie parfois, ce sont des entreprises privées qui sont cotées en bourse. Donc forcément, il y a une logique de rente derrière. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont été mis au pied du mur, Twitter, par exemple, a été incapable de se justifier sur comment faire ou pourquoi son algorithme était devenu aussi sensible et laisser aussi facilement mettre en avant les propos et les comptes d'extrême droite en valeur. À tel point d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont fait une expérience avec un bot, avec une IA. L'IA est devenue raciste et antisémite en même pas une heure.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et ça m'avait fait bien rire, cette histoire-là. Mais voilà, donc il y a une logique de rente et ils ont super bien su l'exploiter, mais parce qu'encore une fois, ils avaient de l'avance. Voilà, le premier parti à avoir atteint, je crois, les 1 million de likes ou un truc comme ça, un certain nombre d'abonnés, les 500 000 abonnés, encore une fois, c'était le Front National à l'époque. Ils étaient en avance, cette avance leur a donné l'assise et le savoir-faire d'aujourd'hui.
Bon, nous voilà donc un peu plus éclairés sur les stratégies digitales utilisées par l'extrême droite pour propager des idées fascistes. Mais il y a une chose qui me paraît extrêmement importante à garder à l'esprit, c'est que les idées d'extrême droite ne constituent pas un ensemble parfaitement homogène. Dans la mission qu'on se donne ici, c'est-à-dire analyser pour comprendre et tenter de désamorcer ce phénomène, c'est important de faire la part des choses. D'un côté, il y a l'ambition politique des partis d'extrême droite, donc le Rassemblement National, ex-Front National et Reconquête, qui ont, eux, pour objectif de gagner des électeurs pour se rapprocher du pouvoir. Ils ont des objectifs idéologiques qui sont essentiellement motivés par la soif de pouvoir. Et de l'autre côté, il y a l'énorme foule des idées populaires, qui sont amalgamées dans des discours de haine. Alors ça va de la simple déception envers notre système politique à une haine raciale profonde. Ça va des croyances complotistes à un besoin de virilité, ça va de l'ignorance historique à un besoin de moralité, la religion qui joue son rôle dans tout ça. Donc en gros, il y a cette foule énorme et hétéroclite d'idées populaires qui sont utilisées et amalgamées dans la promotion parfois des partis politiques d'extrême droite. Donc les deux grands pans qui constituent l'extrême droite se rejoignent et se mélangent, et la foule des militants et des sympathisants est plutôt hétéroclite. Ashraf Ben Brahim nous rappelle d'ailleurs l'importance de la nuance dans notre analyse du phénomène de l'extrême droite.
On s'attend toujours à voir le militant d'extrême droite comme le cassos du fin fond de la France avec sa baguette et ivrogne avec le nez rouge qui dit « sale arabe, sale noir ». Mais non, il faut se mettre à la page. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus nuancé. Si demain Éric Zemmour dit « le mur qui est en face de moi, il est blanc », je ne vais pas lui dire « il est noir parce que c'est Éric Zemmour ». Ça n'a pas de sens. La question finalement, c'est la finalité de l'argument. Voilà. Quand on vous dit que, je ne sais pas moi, si vous allez à Barbès à 1h du matin, parce que vous avez, faut pas y aller parce que habillé court, parce qu'effectivement vous risquez de vous faire agresser, je ne pense pas que ça soit faux, mais en revanche, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de dire, ok, puisqu'on ne peut plus aller à Barbès à 1h du matin, alors Paris est une ville grand remplacée, alors il faut réimmigrer les Algériens au bled. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on peut être d'accord avec un certain nombre de constats, mais le problème, c'est derrière, qu'est-ce que ça implique finalement? Donc, c'est beaucoup plus, effectivement, c'est beaucoup plus nuancé. Il y avait un très bon sociologue qui s'appelait Norbert Elias qui disait le sociologue est un chasseur de mythes. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma modeste carrière d'auteur en sciences politiques, c'est que j'essaie d'aller sur le terrain et de dialoguer directement pour essayer de tirer l'essence de cette conviction militante. Voilà. D'ailleurs, lorsque j'étais invité sur le plateau du Grand Journal, à l'époque où Natacha Polony et Jean-Michel Apathy, officier. Alors, très vite, hein, on est venu me dire, alors, le Front National, comment c'était? Puisque je m'appelle Ashraf, d'origine maghrébine, tout ça, c'est comment? Et je leur ai dit, mais moi, ce sujet-là ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce que je veux mettre en avant sur votre plateau, justement, c'est jusqu'à quel point on y est arrivé pour que des gens vous disent, je m'en fiche que ça soit le Front National ou le Rassemblement National ou un autre parti qui passe, pourvu qu'il n'y ait plus un tel en face. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de vote de conviction. Et en fait, la démocratie meurt quand il n'y a plus de vote de conviction. Si on regarde les scores de Marine Le Pen en Martinique et en Guadeloupe, mais voilà, je veux dire, tout est visible. Pourquoi? Parce que la seule volonté, c'était de mettre dehors Macron. C'est ça, la réalité. Donc, c'est pas une époque qui est facile. Clairement, je veux dire, même le débat politique, de façon générale, il est mort en France. Moi, je me rappelais des débats enflammés sur « On n'est pas couché », sur « Ce soir ou jamais » avec Frédéric Taddeï, etc. Dans les facs aussi, où ça débattait, ça faisait des manifestes, on échangeait véritablement. Aujourd'hui, c'est fini, je veux dire. Les débats d'aujourd'hui, c'est du clash, c'est... Voilà, c'est vraiment... On rend pas service, en fait, à la démocratie, et encore moins à la circulation du savoir et du savoir politique et métapolitique en général.
Alors, ce dernier point est crucial, je trouve, dans notre parcours de chasseur de fachos. Un des principaux reproches qu'on peut faire à la fachosphère, c'est la mise au rancard du débat intellectuel argumenté. En fait, en se saisissant de faits divers isolés, en propageant des rumeurs, en faisant primer l'émotion sur l'intellect, en oblitérant parfois carrément la vérité historique, les militants néofascistes nuisent profondément au débat. Même ils l'annihilent et ils alimentent la haine, ils nourrissent la violence de la société dans son ensemble, et ils nous conduisent dans ce qu'on sait déjà être une impasse depuis plusieurs décennies. Donc pour désamorcer la montée en puissance de ces idées fascistes, il est extrêmement important de ne pas céder à la tentation de répondre à leurs arguments fallacieux par d'autres arguments fallacieux. La nuance dans le discours, la volonté sincère de répondre à des questions sans tomber dans la facilité, le désir de résister à une paresse intellectuelle sont autant d'armes que l'on peut et que l'on doit utiliser si on veut réussir à freiner la progression des idées d'extrême droite chez nous.
Well, right now I'd like to do for you. A number I wrote during the 70s when fascism was on the rise once again, not only in England but all over Europe. And in the 21st century, things haven't changed. Fight them back. Their brains in, 'cause they ain't got no thinking. We're gonna smash their brains in, 'cause they ain't got no thinking. Well, some of them say them a nigga hater, and some of them say them a black beater, and some of them say them a black stabber, and some of them say them a packy basher. Fascists and hater, who now go fret about that? Fascists and ghetto, we are gonna fight them back. Fascists and ghetto, then we counter attack. Fascists and ghetto, then we drive them back. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got no thinking. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got no thinking. If fascists and ghetto, we not gonna panic over that. If fascists and ghetto, we are gonna fight them back. If fascists and ghetto, then we counter attack. If fascists and ghetto, then we drive them back. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got no thinking. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got no thinking. But some of them say them a nigga hater, and some of them say them a black beater, and some of them say them a black stabber, and some of them said them a packy basher. Fascists and ghetto, we never go worry about that. Fascists and ghetto, come make we fight them back. Fascists and ghetto, make we counter attack. Fascists and ghetto, then we drive them back. We gonna smash their